Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le samedi 22 février 2020 et vous écoutez le débrief du jour 2 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus, je suis à nouveau accompagné d'une bonne partie de la Proxy Team pour vous fournir ce débrief. Et j'ai à ma gauche le Pionfesseur.
Salut Cyrus.
J'ai également Beno FX.
Salut tout le monde.
Il y a également Astien.
Salut.
Twin est là.
Salut tout le monde.
Ainsi que Fendoel.
Oui, je suis là.
Et Cargo Toaster.
Coucou à tous.
Bonjour à vous tous. Alors, pour démarrer ce petit débrief, on va, bah, comme d'habitude, faire une petite revue des interviews qui ont eu lieu aujourd'hui. Cargo et Benofix, vous avez ouvert le bal ce matin?
Tout à fait. Alors, on a eu, en début de matinée, Benoît Bagnier de la boîte de jeu.
On a également eu Charles Chevalier.
On a eu Mathieu Verdier de Sorry We Are French.
Et on a eu également reçu Alexis Anne
de Aurora Games.
Ok.
C'était intéressant Sorry We Are French parce que c'est la première fois qu'on les recevait en fait sur Proxy Jeux, tout épisode confondu, donc c'était assez intéressant.
Ouais. Bah oui, c'est toujours intéressant d'aller chercher un peu les nouveaux éditeurs pour fournir de l'information aux auditeurs et puis même nous, voilà, ça. J'imagine qu'on a appris plein de choses dans cet épisode.
Ouais, tout à fait. Okay. Sur le fonctionnement notamment de Sorry We Are French en mode un peu studio en fait. Pas vraiment comme un éditeur classique.
Eh ben super. Alors, on a hâte d'écouter ça. Twin et Fendoel ont pris la suite.
Absolument.
Oui. Alors on a commencé avec une interview de Magali Moreno de Matago.
Et on a continué par l'interview de la blogueuse Geeklette.
Ouais, ok, très bien. Ensuite c'est Paul Gara et Hammer qui ont pris la suite. Alors ils sont pas là au débrief hein, si vous avez bien suivi l'appel de départ. Donc Paul Gara et Hammer ont reçu Black Rock Games. Ils ont reçu également Sébastien Dujardin pour parler de Pearl Game. Et enfin ils ont reçu Okaluda. Voilà. Ensuite, alors aujourd'hui il y avait des conférences hein, comme tous les jours. Je crois que tu as pu assister à une conférence organisée par le Gaming Lab Benofix.
Ouais, tout à fait. Il y avait deux conférences organisées par le Gaming Lab cet après-midi. J'ai assisté qu'à la première. Donc la première, c'était une restitution d'une des études de Vincent Berry, un des chercheurs qu'on a reçu dans le dernier épisode de Proxy Jeux.
Épisode 114.
Ouais, tout à fait. C'était une restitution sur l'étude en fait des pratiques ludiques en France. Donc, c'était assez intéressant. C'est une étude qui se base sur un panel en fait représentatif de la population française et sur lequel il peut en fait. Ce qui est intéressant, c'est un panel qui a été mise à disposition des chercheurs par l'État et donc il peut croiser les questionnaires qu'il leur envoie à d'autres questionnaires qui n'ont pas forcément à voir, ouais, qui sont plus larges sur d'autres sujets. En fait c'est le même panel qui est utilisé par tout un tas de chercheurs sur tout un tas de sujets, donc ils peuvent vraiment croiser les études, donc c'est assez intéressant. Et du coup il a essayé de dresser un peu les profils ludiques, des pratiques ludiques en France, pratiques ludiques déjà en général et du jeu de société en particulier. Mais jeux de société sous toutes ses formes, que ce soit du jeu de cartes traditionnel jusqu'au jeu qu'il a appelé jeu d'éditeur, donc les jeux que nous on pratique un
oui,
petit peu plus.
D'accord. Mais je me rappelle qu'il avait utilisé ce terme effectivement
ouais,
dans la.
Tout à fait. Et donc c'était une partie de la restitution de son étude parce que c'est une étude qui est assez longue. Donc là c'était la première partie justement sur les pratiques et sur les profils de joueurs. Et du coup, si vous aimez bien un peu les sujets sociologiques, si vous avez bien aimé l'interview précédente, je vous invite à aller voir cette conférence sur Ludovox. Elle sera rediffusée sur Ludovox. Et il y avait une deuxième conférence après, j'ai pas pu rester, mais ça me paraissait intéressant, sur les comportements des joueurs autour de la table. Voilà, les gens qui jouent de manière agressive, les gens qui, voilà, enfin, et puis tous les profils un peu d'interaction et de comportement qu'on peut avoir autour d'une table de jeu.
D'accord, c'était pas Vincent Berry cette fois-ci?
Non, c'était un, genre, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais c'était un autre chercheur. Ce sera aussi diffusé sur Ludovox.
C'était aussi via Gaming Lab?
C'est aussi via Gaming Lab, ouais. Donc Vincent Berry, son étude n'est pas une étude financée par Gaming Lab, mais il a été invité par Gaming Lab à présenter une partie des résultats. Et je crois que l'autre étude, par contre, est une étude qui fait partie des financements, des études financées par Gaming Lab.
Ok, d'accord. Ah, merci beaucoup. On surveillera ces diffusions et puis on essaiera de les faire passer à nos auditeurs. Vous partagez les liens sur les réseaux sociaux en particulier et peut-être éventuellement placer dans les news des épisodes d'interview. Ok, très bien, merci beaucoup Benofix. au registre des généralités de la journée, j'avais un petit coup de gueule à formuler. Je suis allé sur le stand de l'Asdor aujourd'hui. J'ai vu que sur le stand de l'Asdor, en fait, il y a des démonstrateurs qui sont là pour animer l'ensemble des jeux de la sélection. Sur ce stand-là, on trouve Root et Gloomhaven, qui sont des jeux qui ne sont pas présentés par leurs éditeurs sur le festival. Je trouve ça un peu dommage. On a eu le cas l'année dernière avec Detective, hein, qui avait en plus gagné le prix expert. Là, ces jeux sont des jeux qui ont été sélectionnés, ils n'ont pas remporté le prix. Des tables de Rise Arcana, on en a pas mal hein, sur le salon. Hein. Mais on n'en a pas pour cela. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des choses à rajouter.
Ouais, moi, je pense que Gloomhaven, ça pourrait presque être compréhensible parce que c'est quand même très très gros, très très compliqué à expliquer. Ça se prête pas forcément à un salon. Je pense que Root, vu le succès du jeu, Matago aurait pu avoir au moins une table pour faire tourner le jeu, quoi.
Ouais, pour Matago, c'est d'autant plus à mon sens faisable. Bon, bien sûr, j'ai pas vécu l'expérience, hein, mais faisable d'animer avec l'espèce de tutoriel qui est dans la boîte. En revanche, effectivement, Gloomhaven, bon, bah, même le scénario de départ semble assez dense, hein, ou dire de la personne qui animait sur le stand de l'Asdor, qui avait l'air d'être quand même assez en peine pour de devoir assurer la table tout le long de la partie pour aider les gens avec les mots clés, etc. C'est sûr que c'est compliqué, mais voilà, il y a des gens qui s'efforcent de le faire. Je trouve que ce serait le minimum que l'éditeur fasse aussi l'effort.
Ouais, moi, j'arrive à comprendre l'éditeur qui a pas envie de monopoliser une table pendant 2h30, alors qu'il a d'autres jeux où ça va pouvoir tourner beaucoup plus que ça.
Ouais, c'est commercial aussi, quoi.
Donc moi j'arrive à comprendre l'éditeur, parce qu'ils y très bien que ceux qui veulent jouer à Root ou à Gloomhaven, ils ont sans doute entendu parler ailleurs que sur un salon. Donc moi j'arrive à comprendre. Après que le festival le présente, ça me semble normal. Et c'est ce qu'ils font sur le stand de l'Asdor. Moi je ne suis pas choqué.
Ok. Ensuite, donc on peut signaler qu'on a pu bénéficier aujourd'hui d'un rendez-vous presse avec Solidware French, qui permet du coup d'avoir peut-être accès à des parties de façon un peu plus facile et confortable. Donc au moins avec un rendez-vous fixé, ça nous permet d'accéder à la table sans avoir à passer 40 fois dans le stand, etc. C'est comme on a pu bénéficier hier, on l'avait expliqué pour Gigamic et Scorpion Masqué. C'est appréciable, c'est des choses qu'on faisait pas jusque là. Là on a été sollicité cette année, on a tenté le coup et au final c'est pas mal. Alors ça a un inconvénient quand même que du coup le rendez-vous étant fixé, ça limite un peu pour les parties d'avant quand on lance des trucs. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients, mais ça nous assure de vous faire un retour. Voilà, évidemment du coup c'est tout bénef aussi pour l'éditeur. D'ailleurs, puisqu'on en parle, on va parler donc des jeux. Et je vais redonner la parole à Beno FX qui va nous parler de Demeter.
Oui, du coup c'est mon top de la journée. Alors petite parenthèse, je vous ai entendu parler dans les autres débriefs de jeux que j'ai beaucoup aussi aimé, donc je voulais juste souligner que effectivement top 10 est dans mes chouchous de cette année.
Top 10,
top 10, ouais. Dans mon top 10. J'ai beaucoup aimé aussi Au Creux de ta Main, qui est un proto chez la boîte de jeux. Voilà. Et du coup maintenant Demeter. Donc Demeter, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu chez Sorry We Are French. C'est un jeu de Mathieu Verdier, qui est lui-même employé chez Sorry We Are French. Et c'est un jeu de comment on peut appeler ça, de flip and write, dans la même veine que Welcome to Las Vegas. Donc au lieu d'avoir des dés, on va avoir une grille, ou en tout cas une feuille à remplir, et au lieu d'avoir des dés, on va avoir des cartes qu'on va flipper. Donc ils ont décidé de mettre le jeu dans le même univers que Ganymede. Ils ont gardé le même univers graphique et le même même univers de planètes, etc. Donc là on est sur une des planètes qu'on a pu voir dans Ganymede, où il y a des dinosaures, et le but du coup ça va être d'envoyer des scientifiques et de construire des observatoires pour observer les dinosaures et pour essayer de voir si on va pouvoir s'installer sur la planète en vivant on va dire en harmonie avec ces dinosaures. Donc Mathieu Verdier nous a expliqué que le principe de base, en fait son proto au départ c'était sur un parc de dinosaures à construire. D'accord. En fait avec des visiteurs, un truc à la Jurassic Park, et que du coup ils avaient trouvé que c'était une bonne idée de constituer une sorte de gamme, parce que je vous invite à écouter l'interview qu'on a fait ce matin. En fait ils développent certains univers, on va avoir justement Immortal 8, 9 et la prochaine réédition de Gozu, qui sont dans le même univers un peu de dieu asiatique, etc. Ils ont l'univers un peu Greenville, Paris, qui va sortir aussi, qui est voilà, plus un truc fantastique, Lovecraftien, etc. Et donc là, comme c'est des jeux plus mécaniques, plus froids, ça rend très bien dans cet univers spatial. enfin l'univers de Ganymède correspondait bien parce que Ganymède lui-même est un jeu très mécanique avec une thématique qui est pas hyper présente, même s'il y a un petit peu de thématique hein, forcément.
Ouais.
Voilà, sur le thème, j'ai pas spécialement d'objection. Sur la partie jeu, j'ai bien aimé parce que déjà j'avais fait mon coming out il y a quelques années. Ouais, j'aime plutôt bien les roll and write ou les flip and write. Et celui-là en fait est une bonne synthèse, je trouve, entre un welcome et un très futé.
J'allais dire la même chose.
Ouais, on va avoir vraiment ce côté choix d'action parmi plusieurs cartes. Ça reprend un peu des systèmes de Ganymède aussi où en fait les paquets sont triés par couleur. Et en fait, plus tu vas aller prendre dans le même paquet, plus les actions vont être démultipliées. Exactement comme dans Ganymède, quand tu fais des collections de même couleur.
Ouais, d'accord.
Et donc c'est assez intéressant parce que tu vas focaliser un peu sur le même truc, mais il va être de plus en plus puissant. Donc il y a ce système un peu de double tableau,
quoi.
En fait. Si tu prends une carte de chaque, tu vas avoir un bonus. Si tu prends tout le temps la même carte, ça va augmenter aussi tes actions. C'est un mélange entre welcome et vraiment très futé. C'est parce qu'on va avoir un jeu un peu à la welcome sur la mécanique de cartes et d'actions. Et par contre, c'est un jeu où on va pouvoir beaucoup beaucoup comboter. Il y a beaucoup en fait de cases ou de choses qu'on va colorier ou cocher. C'est pas que des cases à cocher, c'est un peu varié. On colorie des petits dinosaures, on colorie des petits scientifiques, on va cocher des cases, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses différentes.
Au début on colorie, puis après on finit par gribouiller.
Ouais, ça. Au début tu colories proprement ton dinosaure, après tu dis bon voilà, plutôt que faire une croix je colorie mon dinosaure. Et on va pouvoir beaucoup comboter. En fait, chaque action va pouvoir nous en déclencher une autre. Et il y a vraiment un côté gros combo, enfin un combo qui s'enchaîne et qui arrive au fur et à mesure, exactement en fait comme dans Tréfuté, voilà, mais avec une touche thématique et une touche un petit peu plus de développement que dans Tréfuté ou dans Vraiment Tréfuté. Bon, c'était une première partie. J'ai plutôt été convaincu par le jeu. Dans le même genre, j'ai fait Welcome to Las Vegas,
oui.
Qui lui, aux explications, m'a fait plus peur. Mais je me suis dit, c'est un Welcome to, mais avec plein de salades de points, de règles en plus qui va alourdir le truc. Après la partie, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Ça reste fluide, mais j'ai préféré cette année dans la même catégorie. J'ai préféré la gamme de
Roll and Write un peu expert, quoi.
Tout à fait.
Ok, je vois le genre. Bah du coup, on comprend bien effectivement le mashup que t'expliques entre Welcome et Tréfuté.
Un jeu à combo, un combo. Ouais.
Même, j'ai l'impression encore plus voie de développement, même carrément.
Ouais, complètement. Ouais.
Ok, d'accord.
Et juste pour ton info, moi qui n'aime pas, donc c'est Fendel qui parle, moi qui n'aime pas les Roll and Write, je n'ai pas plus aimé les Roll and Write, Demeter que n'importe quel autre Roll and Write. Ouais. Voilà.
Ah bah ça reste dans le genre, c'est sûr que c'est pas.
Voilà.
Ça reste dans le genre Roll and Write. Ouais.
Moi je rejoins Benoît FX, j'ai beaucoup aimé aussi. Même si j'étais peut-être un peu perdu au début à l'explication de règles, parce qu'il y a beaucoup de choses.
Beaucoup d'éléments.
Au bout de quelques tours, ça simplifie, tout s'éclaircit. Par contre, c'est vrai que c'est un roll and write, il y a zéro interaction. À part une petite course sur un objectif, là on joue tout seul, quoi.
Effectivement, très peu d'interaction. Comme c'est du duplicate, je l'ai pas dit, mais voilà, on joue simultanément. Il n'y a pas ce côté comme dans Tréfuté justement où tu retires des dés et les autres jouent avec ce qui reste. Là, c'est vraiment du duplicate à la welcome.
Ok, d'accord. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça mérite d'être assez complet. Je pense que nos auditeurs au moins savent vers quoi ils vont. Ensuite, on va parler de Silver and Gold. C'est le Pionfesseur qui nous en parle.
Ouais, alors moi Silver and Gold, c'est mon coup de cœur du jour. C'est un jeu de Phil Walker Harding pour 2 à 4 joueurs, édité chez Oya, localisé chez Oya.
Ouais.
C'est un jeu qui dérive un petit peu des Roll and Write dans la mesure où on va avoir des mécaniques comme des tirages communs ou le fait de d'écrire des trucs, mais la petite nouveauté, c'est que on va pas écrire sur une feuille, mais on va écrire directement sur des cartes. Donc on va avoir des cartes sur lesquelles on peut écrire au feutre dessus et qu'on peut effacer. Et on va retrouver aussi une mécanique qu'on trouve très souvent dans les Roll and Write, c'est les polyominos. Donc voilà, des triominos, des quadrominos, des dominos, des choses comme ça. Et je pense que le jeu le plus proche auquel je pourrais le rapporter, c'est Cottage Garden de Uwe Rosenberg. Donc on va essayer de compléter comme ça des petites formes en plaçant ces dominos. Et quand on complète les formes, on va gagner des points de victoire. Et vu que c'est un jeu de Phil Walker Harding, c'est une salade de points. Donc il y a 15 000 manières de scorer et il faut essayer de trouver quel est le meilleur moyen de scorer. Voilà, moi j'ai kiffé. J'aime beaucoup les salades de points, j'aime beaucoup les roll and write, ce genre de style. Donc j'ai trouvé que le fait de dessiner sur les cartes, ça donnait un petit gimmick intéressant. Et du coup, c'est une curiosité qui m'a plu.
Ouais. Si on n'a pas peur du ménage, hein, du coup, parce qu'il faut nettoyer tout à la fin, nettoyer toutes les cartes.
C'est vrai que ça, c'est un peu relou à la fin.
Ouais, ouais. Ouais, j'ai joué avec toi, effectivement. Bon, bah, je vais faire le même parallèle BenoFX Fenduel. Je vais me mettre côté Fenduel. Bon, voilà, si vous n'aimez pas les jeux type Roll and Write, c'est pas la peine. Ça, voilà, ça s'inscrit dans la veine, quoi. Et si vous aimez ça, effectivement, il y a des petites originalités. On va parler ensuite de Cowboy Bebop avec Twin.
Oui, Cowboy Bebop. Alors ce matin, Fendoel, Astien et moi, on a joué à Cowboy Bebop tous les trois. Alors c'est un jeu qui est de Joan Benvenuto et de Florian Siriex chez Don't Panic Games. C'est un jeu qui est donc une adaptation et un hommage et une lettre d'amour enflammée à la série de Shinichiro Watanabe de 1998, qui s'appelle aussi Cowboy Bebop. Donc c'est une série... C'est entre le western spaghetti, le polar, le film de crime, il y a énormément de musique extraordinaire dedans. Et donc c'est un jeu de deck building où chacun des joueurs va interpréter l'un des quatre personnages principaux, Faye, Spike, Ed et Jet. Et donc le jeu est complètement c'est une simulation, c'est vraiment une adaptation, une transcription de cette série-là. Donc les joueurs sont des chasseurs de primes. Ils vont devoir aller capturer des bandits dont les mises à prix apparaissent à la télé dans l'émission Big Shot. Et donc c'est vraiment un jeu de deck building. On achète des cartes qui permettent de gagner plusieurs ressources. Certaines de ces ressources vont pouvoir permettre aux joueurs de se déplacer, d'autres d'enquêter sur les recherchés, d'autres de combattre ces recherchés. La partie de deck building est vraiment très maligne puisqu'on sent qu'il y a eu énormément de travail et d'évolution depuis les premiers deck builders, puisque là la capacité d'enlever les cartes de base qu'on a au début est vraiment très facilement mise en place. Le deck qu'on a à la fin de la partie est vraiment très différent de celui qu'on a au début. Donc on a vraiment une lettre d'amour qui est en plus supportée par une excellence mécanique. Donc ça a vraiment été un coup de cœur de tous les trois. Je pense qu'on aura peut-être un petit contrepoint. Bastien ?
Oui, tout à fait.
Super. et voilà, c'était vraiment un excellent moment et une excellente découverte.
Ok, d'accord.
Bon, ça n'a pas la richesse d'un Dominion dû à la variété des cartes, bien sûr, mais on a passé un très bon moment, et puis avec une petite originalité, vraiment avec les petits systèmes voilà, divers et variés.
De toute façon, tu n'aimes que Dominion, Fendoel, c'est bien
connu. Je n'aime que Dominion, c'est sûr, absolument.
Je reviendrai sur quelque chose que tu as dit, c'est que ton deck à la fin de la partie ressemble pas du tout à celui que tu as au début, mais je dirais même qu'au bout de quelques tours de jeu, ton deck est carrément différent, tu as vraiment... un système d'épure qui est mis en place, qui est super rapide et super efficace directement avec des pouvoirs sur les cartes initiales, et ça c'est super, vraiment on se sent construire un deck comparé à d'autres deck building où on rame longtemps avant d'avoir quelque chose d'assez efficace, quoi.
Ok.
Un gros point fort, c'est aussi le thème qui vraiment est présent. Je pense que les autres seraient d'accord, et chaque personnage ayant des pouvoirs, un petit peu comme dans la série, les personnages sont indépendants mais parfois peuvent bosser un petit peu ensemble, et donc on a la capacité d'utiliser certains pouvoirs d'autres personnes qui seraient présents avec nous sur une même localisation, une même planète. Donc voilà, plein de petites touches intéressantes qui renforcent le thème, et qui il n'y a plus qu'à mettre une musique jazzy et puis on peut y jouer.
Ok. Et vous pensez que quelqu'un qui n'est pas fan de la série se retrouve dans le jeu, malgré tout, peut apprécier le jeu ?
Oui.
Okay. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même un jeu de deck building. Si on aime ce style-là, on va apprécier quand même le jeu. Après, l'univers nous parle ou pas. Graphiquement, c'est quand même très joli, hein, qu'on connaisse l'univers ou non. Donc je pense qu'on peut accrocher tout à fait au jeu sans souci, quoi.
Mais c'est sûr, si vous êtes fan de l'univers, essayez-le. Vraiment, ça vaut le coup.
C'est un bon portage de la licence. Ok, ben, merci beaucoup. On va ensuite parler de Colt Super Express avec Cargo Toaster.
Oui, moi j'ai pu essayer Colt Super Express.
Donc c'est des cowboys avec des capes.
Non, pas du tout. C'est une version que l'on pourrait qualifier de pocket de Colt Express. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'ils ont retiré ce que j'aimais pas personnellement de Colt Express, et qu'ils ont laissé ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est le chaos, c'est l'aspect programmation, Et ce que j'aime pas, c'est le matériel qui est pas qui est beau, mais qui est pas forcément facile à saisir. C'est l'aspect deck building ou enfin deck building ou de, plutôt de pourrissage de main où on vient, tu pioches des cartes au hasard, on va te mettre des cartes qui t'embêtent. Il y a que 3 tours de jeu et j'ai pas les bonnes cartes. C'est le hasard de la pioche du trésor, c'est le hasard de la pioche dans votre deck. C'est votre c'est la carte qu'il vous faut pour récupérer un trésor que vous avez pas parce que vous perdez du tour à la prendre, etc. Là, c'est beaucoup plus simple. Parce que tous les joueurs ont le même deck, d'accord, le même lot de 5 cartes. On va tous programmer simplement 3 cartes de jeu qui sont en gros les mêmes actions que dans Colt Express, mais il y a pas de notion d'argent du tout. D'accord. Et on va les résoudre chacun à notre tour, comme dans Colt Express. Le but du jeu, c'est pas d'avoir de l'argent. Le but du jeu, c'est d'expulser les autres du train. Donc okay. C'est beaucoup plus agressif. On cherche pas à récupérer du fric, on cherche juste à dégager l'adversaire. À chaque tour, donc les wagons, il n'y a plus de 3D, ce sont des simples cartes, beaucoup plus facilement manipulables. Ça sert un peu de contour, si jamais on ne s'expulse pas, le train se raccourcit de fur et à mesure, ce qui fait qu'il y a la zone de combat est beaucoup plus réduite. Il y a des extensions qui sont prévues dans le jeu, on a joué avec, je pense que c'est beaucoup mieux avec, parce qu'on va pouvoir essayer de déduire, on va pouvoir contrer l'adversaire. Si jamais il vous tire dessus, vous allez pouvoir jouer une carte qui va vous dire, tu m'as tiré dessus, bah je me relève tout de suite et puis moi je t'abats aussi. Il va dégager directement du train. Si jamais on tombe du train, on va pouvoir prendre un cheval qui va te ramener à l'avant. Donc si jamais on arrive à savoir ce que va faire l'adversaire, on peut essayer de le contrer. Sachant ça, l'adversaire, il va essayer de vous dire, hey, tu vas me contrer, dans ce cas, je veux autre chose. Donc on peut vraiment essayer de deviner, c'est vraiment très très cool. Donc moi, j'étais possesseur de Colt Express, j'en suis vite revenu parce que j'avais des conseils. Je trouvais qu'il y a trop de matériel, trop compliqué pour un jeu que je voulais fun. Et celui-là, il est beaucoup plus fun, ça se joue en seulement 15 minutes. Donc ça s'explique vite, ça se joue vite. J'ai eu la chance, je me suis incrusté dans un groupe où le jeu il était vivant quoi. On a rigolé, on s'est fait des crasses. Moi je suis mort hyper vite en plus c'était super et moi j'en ferai une partie avec plaisir quoi.
D'accord. Quand tu meurs t'es éliminé par contre, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Et donc ça c'est pas trop frustrant, parce que ça dure pas longtemps du coup.
Non, parce que surtout parce que j'ai mal joué que je suis mort. on a fait deux parties parce que c'était court, on en a fait une et après on a rajouté les extensions et c'était vraiment vraiment sympa. Okay. Après c'est vraiment tu crois que tu vas faire ça ? Ah du coup je mets celle-ci. Ah tu l'as pas fait ? Ah bah je me suis jeté dans le vide. Voilà.
Ok, c'est d'accord. Ça, je crois que le coup des wagons qui s'en vont, il me semble que c'est une variante qu'ils avaient mis dans une variante. Il me semble que c'est un des scénarios qui est dans l'application, il me semble. Bon, je voudrais pas être catégorique, mais.
Colt Express, je n'ai joué qu'au jeu de base. J'en ai fait pas mal de parties, donc je ne parle pas des extensions.
Oui,
et là, il n'y a pas de notion d'argent. On est là pour se dégager, se tirer dessus, quoi.
Non, je parlais de l'application, le portage.
Je ne l'ai pas essayé. Alors, c'est un jeu de Christophe Rimbaud illustré par Jordi Valbuena à partir de 7 ans pour de 3 à 7 joueurs. Alors nous on était 5 à 7, ça doit vraiment être le bordel. Pour une durée de 15 minutes et ça sort en juin 2020.
Ok, super, merci beaucoup Cargo. On va maintenant parler de Ningto avec Fanduel.
Oui absolument, avec un jeu de culture générale pour changer un petit peu. Et oui. C'est un jeu de culture générale coopératif, donc pour toute la famille. L'idée, c'est qu'on va avoir sur la table des nombres. Alors, je me trompe pas, j'avais dit chiffres dans un autre podcast. Donc, des nombres qui sont disposés sur la table et une pile de questions et une carte réponse à côté. La pile de questions, je vais prendre la première question et je vais essayer d'y répondre en la posant sur l'un des nombres. Par exemple, à quel âge est morte Lady Di? Donc voilà, je vais le poser sur le chiffre que je pense être bon. Je suis pas du tout fan de Star, j'en ai pas la moindre idée. Je vais peut-être la poser de côté, en attendant d'autres questions cachent certains chiffres qui pourraient convenir également et qui ça m'aiderait de cacher d'autres chiffres autour. Donc je vais cacher les chiffres au fur et à mesure. À la fin, je me retrouve avec mon Lady Di et puis il me reste, par exemple, 37 et 4, je crois que c'est quelque chose comme ça, 36 ou 37, je sais pas à quel âge elle est morte. Mais mettons qu'elle soit morte à 36 ans, donc il va me rester, par exemple, 36 et 4, je vais me dire, bah tiens, voilà, je vais pouvoir cacher le 36 parce qu'elle est morte à 36 ans, et le 4, ça va être ma réponse. Et il y a un système assez sympa pour voir si la réponse est la bonne, faut le voir un petit peu pour le comprendre, donc je vais pas le décrire dans le podcast. Voilà, et ensuite, bah voilà, c'est un jeu de connaissances générales.
Culture générale.
Ouais, donc culture G. Donc si vous aimez pas, bah vous aimerez pas. Mais ensuite, c'est pas mal, ça joue avec toute la famille. On peut éventuellement donner des questions à certains enfants, dire bah tiens, ça tu l'as vu en classe, peut-être que tu peux répondre. Voilà, c'est un jeu participatif. Je me suis assis à une table avec une famille avec plein d'enfants et bon, on a un petit peu tous participé, c'était rigolo.
D'accord. Est-ce que tu saurais nous donner les auteurs, etc. ?
Alors, c'est un jeu de Joël Gagnon et Marie-Ève Gagnon, sa femme. En fait, c'est le Randolph Pub à Montréal qui est l'éditeur. Et voilà, ils vont le distribuer en France et en Europe, d'ailleurs, dans le monde même.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, Fanuel. On va donc passer à Astien pour nous parler de La Marche du Crabe.
Oui, La Marche du Crabe, donc un jeu de Julien Protière chez les jeux Hopla, dans une gamme tout à fait différente. On est sur un jeu à deux joueurs, donc un jeu coopératif à communication restreinte. Donc en fait, tout le jeu est tiré d'une BD, donc je sais pas si vous connaissez, de Arthur Pintz. C'est comme ça qu'on dit Arthur Pintz.
Arthur de Pince.
Arthur de Pince. Ok. C'est vrai.
Ouais,
c'est comme ça.
C'est lui qui fait. Il fait des trucs érotiques.
Ok. Hein. Très drôle.
Il a fait Péché Mignon.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est érotique gentil.
Ouais. Ouais, c'est érotique humoristique.
Donc tout le jeu est tiré d'une BD de Arthur de Pince qui a fait cette BD il y a quelques années et donc les jeux Hopla ont réussi à avoir la licence et sortir ce jeu. Donc le but c'est qu'on va incarner deux crabes, donc le crabe bateau et le crabe soleil, qui sont deux petits héros de la BD, et ils peuvent se déplacer seulement dans un sens. L'un va pouvoir se déplacer seulement horizontalement et l'autre verticalement, mais ils ont compris qu'en se marchant dessus, ils peuvent aller dans tous les sens, et ça c'est plutôt malin. Du coup, à son tour de jeu, en fait, on va avoir un paquet de cartes devant nous, on va retourner cette carte là, ça va être des ennemis en fait. Et cette carte, on va devoir la mettre sur une des lignes. Donc on va regarder le fond en fait de notre carte, on va devoir le poser sur une des lignes qui correspond à ce fond-là, et ça va être un obstacle en fait qu'on va se mettre. Puis on va pouvoir faire un mouvement. Donc si par exemple je suis bateau, je vais pouvoir faire que monter ou descendre sur ma plage. Ensuite, ça va être le tour de mon coéquipier, il va devoir tourner une carte, poser une carte sur une des lignes correspondant au fond de la carte qu'il vient de tirer. Donc notre coéquipier ensuite va pouvoir se déplacer horizontalement. L'idée, c'est que sur cette plage, il y a 12 objets qui sont répartis donc sur toutes les cartes. Et sous ces objets, il y a 8 petits compagnons crabes qu'on doit sauver. Et sur les 4 restants, il y a des pièges. Chacun des joueurs va avoir 2 indices sur 2 objets des 4 parmi les 4. Comme quoi, ce sont des pièges, effectivement. Et donc, on va devoir, par cette pose d'obstacle qu'on va poser tout le long du jeu, essayer de faire comprendre à notre coéquipier quelles sont les cartes en gros qu'il faudra éviter, quels sont les objets qu'il faudra éviter. On a un petit système de points de vie, donc si on se trompe, si on veut sauter au-dessus d'obstacles et de choses comme ça, on va devoir donner des crevettes aux méchants qu'on va devoir croiser sur notre chemin. Et on n'a que 5 points de vie. Si on arrive à réussir à sauver nos 8 amis avant de perdre nos 5 points de vie, on a gagné la partie. Et tout ça en plus se joue en système de campagne, donc ils ont fait carrément une campagne. Donc nous on a joué au niveau 1, hein. On commence en gros en bas à droite de notre plateau. Et ensuite le système de campagne va nous apporter plein de petites actions quand on tombe sur certaines cases, va nous faire commencer à d'autres endroits, va nous apporter des cartes différentes sur le plateau et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très malin, de la communication clairement limitée. On a toute une jauge en fait à avoir sur pourquoi notre coéquipier a posé cette carte à cet endroit, sachant qu'il est toujours restreint, il est toujours contraint par la ligne sur laquelle il va la poser. Donc, est-ce qu'il l'a posé que par contrainte? Est-ce qu'il l'a posé aussi pour nous donner des infos sur les objets qui sont autour? Et c'est vraiment assez fin d'aller comprendre pourquoi notre coéquipier pose ça et d'essayer petit à petit de dessiner un certain schéma sur le plateau. Enfin, j'ai trouvé ça extra, moi, de mon côté.
Ok, super.
C'est marrant, j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, il y a des jeux qui ont cherché des thématiques dans l'univers de la bande dessinée. Ça se faisait pas forcément beaucoup avant, ou alors pour des jeux de figurines, genre Oko, tout ça. Mais là, on a eu La Petite Mort, il y a La Marche du Crabe, enfin, je sais pas, c'est peut-être une impression.
C'est quelque chose aussi chez Hopla qu'il avait déjà fait. Ouais, on avait Quatsu chez Hopla.
Oui, donc, enfin, oui, chez Hopla, c'est une de leurs marques de fabrique, hein, le transmédia. On en a parlé pas mal dans l'interview qu'on a faite d'eux. Et ils avaient déjà fait effectivement deux jeux sur des univers de bande dessinée, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est possible.
Cross média.
Après, ils avaient fait aussi du cross média, ouais, avec du film. Ils avaient fait la marche de l'empereur.
Ouais, voilà. Mais après, pour revenir sur de façon plus générale, en fait, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de licences qui sont adaptées dans le jeu de société, que ce soit BD, manga. Enfin, d'ailleurs, il y a des éditeurs qui se font la spécialité d'adaptation sur du manga. Film, effectivement.
Alien.
Je crois qu'il y a une. Oui, Alien. Toi, tu trolles. Il y a un jeu sur les dents de la mer, hein, qui est sorti récemment. C'est apparemment Villainous. Voilà. Enfin, bref, on va pas name dropper, mais voilà. J'ai l'impression que c'est effectivement le marché du jeu de société se tourne de plus en plus vers les licences. Mais c'est aussi, à mon avis, quelque part, le fait qu'il y a de plus en plus d'argent dans le milieu. Donc, on peut aussi se permettre d'aller chercher des licences coûteuses. Voilà. Donc, c'est plutôt un signe de bonne santé, visiblement. Et, pour ne rien gâcher, maintenant on a des jeux à licence qui sont bons. Ça, c'est quand même, ça, c'est top.
C'est pas Buffy contre les vampires des années 90.
Et visiblement, vous en avez donné aussi la démonstration tout à l'heure avec Cowboy Bebop, donc bah, c'est super. Donc, pardon, tu voulais peut-être ajouter d'autres choses sur la marche du crabe ?
Non, c'est bon, c'est bon.
Ok, d'accord. On va passer maintenant à Cosmopolite. On va rester avec Julien Protière. En fait, on se rend compte que bêtement, ce jeu, en fait, on y a tous joué. Mais on n'y a pas joué sur le salon pour la plupart, on y a joué dans nos chambres, et en fait on n'en a pas parlé, et c'est un jeu qui nous a plu à tous, donc on s'est dit quand même qu'on allait faire un petit top collectif. Je sais pas qui est-ce qui veut se charger peut-être de faire un petit speech. Qui on fait sœur?
Alors c'est de nouveau un jeu coopératif de communication limitée, c'est un jeu asymétrique, en fait on a tous des rôles différents. Et le pitch, c'est qu'on est dans une cuisine où on sert des plats de partout dans le monde avec toutes les langues du monde. Donc en fait, ça se joue avec une application qui est indispensable pour le jeu. Il y a une personne qui est la serveuse et qui va entendre des choses qui vont être dites dans un casque ou dans des écouteurs et qui va devoir retranscrire oralement ce qu'elle entend à un maître d'hôtel qui est un deuxième rôle, qui lui va noter les commandes et qui va les transmettre ensuite au cuisinier, c'est-à-dire tous les autres joueurs ou joueuses, et qui vont, eux, essayer de chercher parmi leur feuille de langage quel ingrédient correspond à ce mot. Et donc, ils vont devoir se transmettre comme ça les ingrédients au maître d'hôtel qui ensuite va passer ça à la serveuse qui va ensuite les rentrer dans l'application. Donc, ça fait toute une chaîne de communication comme ça qui va dans un sens puis qui repart dans l'autre.
Et de la soupe au bœuf.
On va pas forcément s'étendre beaucoup plus sur le jeu. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que c'est un jeu qui a vraiment plu à toute l'équipe. Moi, j'en parlerai dans un jeu du mois à venir. Voilà, il y aura plus d'éléments dans le jeu du mois. On va passer maintenant à un jeu qui a fait une impression peut-être plus mitigée dans l'équipe, hein. C'est ni un top ni un flop, il y a des plus et des moins, on va dire, pour parler un peu. Le Pionfesseur, tu me parles de Crazy Farmers.
Ouais, en fait cette nuit avec Fenduel, on est allé au off et on a testé un jeu en proto qui s'appelle Crazy Farmers, il s'appelle Crazy Farmers and the Clôture Électrique. C'est édité
exactement comme ça.
C'est franglais. C'est édité chez The Freaky 42. Alors je sais pas s'ils prononcent le 42 à la française aussi.
Ouais.
Ok. Tu confirmes. C'est un jeu de Quentin de Cagny et de Jérémy Chassin et qui sortira en Kickstarter, donc en financement participatif, le 18 mars. Et alors il est assez difficile à expliquer. C'est un jeu qui s'inspire en fait d'un vieux jeu vidéo qui s'appelle Kicks. Qui a donné pas mal d'autres jeux vidéo qui sont nés après, où vous déplacez un tracteur qui va semer des petites clôtures derrière lui sur son chemin, et il faut essayer d'entourer des zones pour les acquérir. Alors en fait, il y a un côté très abstrait parce qu'en fait, vous vous déplacez sur des cases hexagonales comme ça et vous essayez en fait de calculer les meilleurs mouvements pour capturer des cases aux adversaires ou pour récolter un maximum de cases neutres, en faisant une énorme zone. Pour gagner le plus rapidement possible. Le petit problème, c'est qu'en fait, si les adversaires vous foncent dessus en plein milieu de votre clôture que vous êtes en train de tricoter comme ça au fur et à mesure du chemin, ils vous la cassent et vous devez tout recommencer et ça vous fait perdre du temps, quoi. Donc en fait, il y a un petit côté agressif dans le jeu qui est assez rigolo. Alors a priori, donc je disais, ça a l'air d'être un jeu abstrait. Mais le truc cool, c'est qu'ils ont rajouté des cartes pour faire des capacités spéciales, un petit peu à la manière de Mario Kart. Donc c'est vous vous déplacez, vous acquérez des pouvoirs et vous allez pouvoir les lancer à la tronche des adversaires, quoi. Donc ça, c'est assez fun parce que ça évite que ça soit un jeu 100% calculatoire, ce qui est un truc que moi perso j'ai un peu du mal.
Même si chaque pouvoir peut avoir des contres aussi, donc tu peux te protéger aussi des pouvoirs.
Ouais, voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est qu'on peut essayer de de prendre plein de pouvoirs dans sa main et d'essayer de calculer quand est-ce qu'on va les lancer pour les attaquer les autres tout en se défendant. Donc ça, il y avait une petite gestion de pouvoir sympa.
Ouais, puis vu que c'est un jeu qui est effectivement à deux joueurs, il sera peut-être plus abstrait, mais quand tu vas jouer à trois ou quatre joueurs, tu vas commencer à voir cette espèce de politique, tu sais, genre tu vas faire des alliances ou des trucs comme ça pour tabasser clairement, celui qui est en train de gagner ou des choses comme ça, ou conserver tes cartes pour le taper, donc c'est pas mal. Néanmoins, ça reste un jeu qui est pas dingue, il a pas mal d'erreurs d'édition. On va pas les détailler, mais bon, typiquement les couleurs, moi pour les daltoniens, c'est assez énervant.
A priori, ça devrait être corrigé dans l'édition via Kickstarter. Ouais. On m'a montré des photos de la version finale et en fait, les tuiles ont un motif différent en fonction du propriétaire.
Ce qu'on peut aussi reprocher, c'est que toutes les cartes pouvoir, en fait, il y a juste une icône dessus, enfin même pas une icône, un dessin en fait de l'action qui sera réalisée. Mais on sait pas vraiment ce que ça peut faire si on regarde juste la carte. Il faut se référer en fait à une plaquette qui est à côté du plateau, qui décrit tous les pouvoirs, mais pas de façon juste en une ligne, quoi. Vraiment, ça décrit en 3-4 lignes tout ce que ça peut faire et tout ce que ça peut engendrer.
Carrément, carrément. Et puis surtout, en fait, je pense qu'il y a plein d'erreurs de game design, donc là je vais pas les détailler. Mais dans la mécanique, il y a plein de petites règles un petit peu embêtantes à retenir et qui franchement servent pas à grand chose. Et en fait, le jeu manque d'une certaine épure que pourrait avoir normalement un jeu abstrait. Donc en fait, ça se veut un jeu abstrait, mais avec une complexité supplémentaire qui fait que toutes les réflexions deviennent encore trois fois plus longues et trois fois plus embêtantes, quoi. Alors, petite remarque quand même, au niveau de l'édition, ce qui est cool, c'est que le jeu, il est 100% fabriqué en France.
Ouais.
C'est des petits jetons faits en découpeuse laser. Enfin, il y a vraiment un côté comme les jeux au plat, quoi. Ouais, made in France 100%, quoi. Donc ça
le matos est bien rigolo. On a des petits tracteurs avec des petites barrières en 3D. Et ouais, l'univers est totalement starbé, donc totalement
l'univers
fou.
Est complètement pété, ouais.
Mais du coup, c'est fabriqué en France, mais le Kickstarter, il sera 100% français ou c'est non, mais enfin, c'est important parce que si c'est fabriqué en France, mais que ça repart en Chine après.
Non, a priori, ce sera juste en français, mais.
Ok.
C'est vraiment un tout petit. Enfin, ils prévoient en tout cas un tout petit tirage. Après, ils sont peut-être pas à l'abri d'un super succès, mais.
C'est pas un gros éditeur déjà. Ils ont qu'un jeu aujourd'hui sur le marché, qui est Zombie Social Club, qui marche, mais qui tire en auto-édition. Donc, c'est un peu compliqué, je pense, d'aller faire un gros truc à l'international pour eux, quoi qu'il arrive.
Puis les auteurs, c'est leur premier jeu aussi. Hein. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est pas un jeu forcément bien, mais il a un côté très punk, je trouve. et avec toutes les erreurs, tu vois, de premiers auteurs, de pas premier jeu de l'éditeur non plus, c'est le deuxième, mais voilà, il a tous ces petits écueils-là, mais en même temps, il est fascinant parce qu'il est très bizarre à la fois au niveau du thème, par rapport à la mécanique, enfin, c'est vraiment super bizarre, c'est des courses de tracteurs du futur, là. Et en même temps, il arrive à être assez sympa pour ce qu'il est, pour un premier jeu et tout. Donc voilà, si vous voulez un jeu bizarre, punk et original, rendez-vous sur Kickstarter.
Ouais, jetez-y un œil, ouais, absolument.
Ok, d'accord. On va passer maintenant à un dernier jeu. On va parler d'un jeu qui nous a moins convaincu. C'est Beno FX qui s'y colle avec Settlers The Roll and Write.
Ouais. Alors c'est encore un Roll and Write, mais une assez grosse déception cette fois. Donc sur le papier, ça avait tout pour me plaire. C'était Settlers The Roll and Write. Donc c'est un jeu qui est de Monsieur Trevicek et qui était dans le même univers que Imperial Settlers, qui était sa rethématisation de 51 States. Qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est vraiment vraiment cool et efficace. Et du coup, ce Roll and Write est juste très très comment on peut dire, compliqué à jouer et désagréable à jouer plutôt, très désagréable à jouer parce que c'est un Roll and Write dans lequel on va lancer des dés et il y a un dé qui va nous donner le nombre d'actions qu'on va faire et il y a trois dés qui vont donner des ressources. Il y a trois ressources différentes. Il y a du bois, il y a de la pierre, il y a de l'or et des pommes. Non, il y a quatre ressources différentes.
Ça, c'est
pommes.
Les ressources de
c'est les ressources de cette verse. Et en fait, on va avoir différents types de ressources, différentes actions. Les actions, enfin, qu'on va faire vont nous permettre de débloquer des bonus qui vont nous rapporter soit des actions ou des ressources en plus. Mais sauf que, à chaque fois qu'on va cocher une case, on va dépenser une action et une ressource. Et sauf qu'il n'y a rien pour noter. Donc au départ, tu pars avec 5 actions, 3 bois, 4 pierres, 1 or. Tu vas cocher une case, tu dis j'ai une action en moins, un bois en moins, donc il me reste 4 actions, 2 pierres, alors je sais plus où j'en suis, et ça devient un cauchemar en fait.
Ah, je vois le genre, ok.
Ergonomiquement, ça devient juste un cauchemar. Normalement, c'est un duplicate aussi, Sauf que là, tu peux pas jouer en même temps parce que c'est tellement, t'as tellement peur de te gourer dans les trucs que tu joues chacun son tour pour que les autres en plus t'aident à compter tes actions pendant que l'autre vérifie les ressources. Et si au début ça passe parce que t'as très peu d'actions, très peu de trucs, tu commences à cocher, il y a énormément aussi de développement possible. On peut construire des bâtiments, on peut cocher des ressources. Quand on construit des bâtiments et qu'on a développé des ressources, on peut, il y a une espèce de Tetris où on peut entourer des cases pour faire, et en fait il y a une accumulation de mécaniques qui s'imbriquent pas forcément bien les unes avec les autres. Et il y a en plus ce côté on va gagner des bonus qu'on n'est pas capable de gérer, parce que après pour se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, enfin plus les tours avancent, plus c'est compliqué, et plus on avait envie que ça se termine parce que on a vraiment pas passé un bon moment. Et ce qui est assez étonnant c'est que la personne qui nous a expliqué le jeu nous a dit, alors vous verrez ça, c'est bon, si vous voulez on vous donne une feuille pour vous notiez les trucs parce que c'est pas évident de se souvenir de tout ça. Donc quand sur le stand de leader on dit, bah tu vois, quand on t'explique, on te dit qu'il y a un truc qui est pas évident et qui va pas trop, je suis assez étonné que ce soit sorti comme ça, quoi.
Ok, bah écoute, effectivement on sent bien que c'était pénible à jouer. Merci beaucoup Benefix. Eh bien écoutez, cette émission se termine. On va commencer par remercier l'organisation du festival de Cannes, encore une fois, de nous avoir offert ce stand et donc cette opportunité de vous livrer et des interviews et des débriefs quotidiens. On va également remercier très chaleureusement nos tipeurs, car c'est grâce à eux si on peut couvrir le festival. C'est grâce à leur financement qu'on peut être tous ici à neuf et se démultiplier et envahir le festival pour aller essayer des jeux à gauche à droite. Chères auditrices, chers auditeurs, si ce débrief vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, pensez à parler de nous autour de vous. Rendez-vous sur notre page Tipeee, c'est important, vous l'avez compris. On se retrouve dès demain pour le tout dernier débrief de Cannes. Nous vous disons à très bientôt et surtout,
jouez bien.